Professeur Magnard, nous allons écouter un extrait du deuxième mouvement du Quatuor d'Albéric Magnard. Professeur Magnard, notre rencontre est due à une juxtaposition d'événements qui se sont accumulés avec le temps à travers mon label discographique. Et de façon très étonnante envers des partenaires, des personnalités qui me soutiennent, notamment Pierre Arrigagé dont on parlait, qui est le directeur de la Maison Loujado, mais surtout aujourd'hui Aubert de Villene, qui est le co-gérant du domaine de la Romanée-Conti. C'était l'un de vos premiers élèves. Quand j'ai enregistré la sonate d'Albéric Magnard il y a quelques années, Aubert de Villene n'avait pas réactualisé une histoire qui date de 50 ans et qui a
60.
Fait 60 et qui a fait que moi, en tant que mélomane, en tant que producteur, j'ai enregistré des œuvres d'Albéric Magnard. Aubert de Villene a été votre élève et finalement tout ceci nous a rapprochés. Et Aubert de Villene écrivait il y a peu de temps: le vigneron essaye d'extirper de la vigne l'expression d'un vin pur. Et l'explication de l'élaboration du Quatuor d'Albéric Magnard par le professeur Magnard est une leçon pour ceux qui dégustent le vin en le comparant à toutes sortes de goûts et d'odeurs. Et cela confirme à quel point c'est une erreur et combien il faut goûter le vin seulement pour lui-même. Quand on emploie le mot poésie, il faut faire attention. Beaucoup de poésie a été écrite sur le vin et elle est toujours mauvaise. Même Baudelaire, c'est mauvais parce que le vin est une poésie par soi-même. Ça vous convient, ça?
Tout à fait. Le vin, c'est l'expression même du sens de la terre. Jamais la terre ne s'exprime dans son génie propre, dans la spécificité de son terroir, dans la particularité de son climat, que dans le vin. Il n'y a pas plus haute expression. Autrement dit, le vin est une figure de la musique, ou la musique une figure du vin, car l'une et l'autre traduisent précisément ce que j'appelle le génie de la terre, ce sens de la terre. L'expression est de Nietzsche, qui disait que c'était nos cinq sens qui nous enracinaient dans notre terre, constituant comme les détecteurs conjoints qui nous permettaient de découvrir l'esprit de la terre. Et que, dès lors, il nous donnait le sens de la terre. Et que la perte de cette approche risquait fort de constituer une humanité abstraite. Une humanité, comme osera le dire Michel Foucault, une humanité hors sol. Lequel Michel Foucault plaide pour l'humanité hors sol, alors qu'elle constitue l'aberration des aberrations, puisque ce qui nous humanise, c'est la terre autant que le ciel. Et c'est parce que, précisément, dans l'habitat terrestre, nous sommes capables de conjuguer les dieux et les mortels, d'unir le ciel et la terre, que cet habitat terrestre est ce qui nous humanise. Il faut donc revivre cet enracinement en recherchant précisément ce sens de la terre.
Par rapport à la fin de vie d'Albéric Magnat, je voudrais que vous nous expliquiez à quoi correspond ce dont se targuent beaucoup de philosophes ou de personnes qui s'autoproclament philosophes, cette notion de courage intellectuel. Qu'est-ce que c'est que ce courage intellectuel? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut être courageux intellectuellement? C'est quoi être courageux intellectuellement?
Aujourd'hui, c'est l'apanage des journalistes qui se prévalent d'un courage purement imaginaire, fantasmagorique, un courage d'apparence. Autrement dit, ça fait partie, tristement, de la comédie humaine. Car le vrai courage, on ne le décrète pas, on ne le professe pas, on l'assume quand on le vit jusqu'à la mort, ce qu'a fait précisément Albéric. Je n'aime pas qu'on dise qu'Albéric est mort pour la France, car il n'est pas tombé en uniforme, les armes à la main, puisqu'il avait été écarté des officiers de réserve auxquels il appartenait à cause de son soutien à Zola dans l'affaire Dreyfus. Il en était très meurtri et il avait dit « Quoi qu'il advienne, je défendrai ma terre ». Et quand les Allemands sont arrivés à Baron-sur-Oise, un peu avant la Marne, il fut là, non pas au premier rang, mais à son balcon, à guetter l'envahisseur. Et c'est ainsi que lorsqu'un escadron de la cavalerie allemande occupa Baron et dépêcha deux de ses officiers dans la propriété d'Albéric, celui-ci fit feu et les descendit sur le sol.
Professeur Magnat, il est de bon ton dans le monde de la musique de considérer ce geste héroïque de façon un peu simplette, en disant que c'est une sorte de suicide. Alors je réponds souvent que si tous les Français avaient eu cette attitude, les guerres auraient été beaucoup plus courtes. Mais ce n'est pas un suicide. C'est tout l'inverse.
C'est tout l'inverse, absolument. Il aimait la vie. Il détestait le monde, mais il aimait la vie. Le monde, pour lui, c'était une parodie. C'était un spectacle de fantoche. C'était quelque chose d'inconsistant. Mais la vie, c'était la réalité même. Et cette référence à la vie interdit qu'il ait pu jamais imaginer le suicide. Mais il avait dit que si l'occasion s'en présenterait, il se battrait. Et il avait fait partir sa femme et ses deux filles en Normandie, quelques jours auparavant, devant l'avancée des troupes allemandes. Et c'est pourquoi il fut seul avec son fils adoptif lorsque les Allemands survinrent. Qu'est-ce qu'il devait faire, selon son éthique ? Faire front, même s'il était seul, contre un escadron de Uhlans. Et c'est précisément ce combat inégal qui fait sa bravoure de héros antique. On pense à Léonidas aux Thermopyles, qui seul se bat contre toute l'armée perse. On ne sait quel fut le sort de Léonidas, on sait quel fut celui d'Albéric. Il fut celui d'un sage antique, d'un héros du théâtre grec qui meurt les armes à la main.
Professeur Magnat, je vous remercie d'être intervenu une deuxième fois sur Isère Classique. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une émission basée sur le sens. Merci, à très vite. Mm-hmm.